Alors ce matin, je l'ai intitulé ce message En quête de sens. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens cherchent du sens, mais il n'y a pas que les gens du monde. Les chrétiens, nous avons besoin de sens, hein, savoir dans quelle direction il faut aller. Hein, c'est la boussole, hein, qui nous indique le sens, où il faut aller quand on est perdu. Et parfois, on est un petit peu perdu, et l'Église peut être un peu perdue. Et le sous-titre que je mettrais à ce titre, la recherche de sens, la quête de sens, c'est la recherche de la gloire de Dieu. Parce qu'en fait, l'objectif du sens que nous voulons donner à notre vie, à notre Église, c'est la gloire de Dieu. Donc, bienvenue dans cette aventure inédite, hein. Alors là, j'ai mis ce qu'il y a sur le site web pour ceux qui sont pas habitués au site web, qui nous présente. En fait, j'ai reçu à l'époque où je l'avais présenté, ces parachutistes, hein, qui sont en train de faire une figure pour montrer ensemble, qui sont ensemble, suspendus dans les airs, hein, suspendus dans le ciel. Et nous aussi, on est un peu suspendus, hein, on est en même temps dans le ciel et en même temps sur la terre, hein, puisque avec le Seigneur, nous sommes assis dans les lieux célestes. Donc je trouve que cette image représente vraiment ce que nous voulons être, ce que nous sommes et ce que nous voulons être en tant qu'Église. C'est-à-dire en même temps, on va revenir sur terre et en même temps, on est dans le ciel. Alors pourquoi faire? Le sens, c'est le pourquoi. Pourquoi faire? Nous sommes ensemble, pourquoi faire? C'est vrai que l'Église a beaucoup diminué en nombre, hein, mais ce n'est pas le nombre qui importe, c'est le pourquoi faire. Pourquoi on est ici? Pourquoi on est ensemble? Pourquoi nous allons marcher ensemble pendant un certain temps et puis entraîner d'autres, bien sûr, dans cette marche? C'est le pourquoi faire. Pas le pourquoi, mais le pourquoi faire. Et donc, vous le savez, ceux qui, en tout cas, sont dans les trios de croissance, c'est qu'on veut reconstruire les murs et les portes des abbés de ville, en dehors du fait qu'on est une église, comme toute église, hein, qui apporte un culte au Seigneur, comme nous le faisons ce matin. Mais au-delà de ça, il faut un sens à notre communauté, à notre façon d'être ensemble pour évangéliser, parce qu'on ne veut pas simplement apporter le culte au Seigneur, on veut aussi évangéliser. Et c'est le sens de l'évangélisation. Comment, qu'est-ce qu'on veut évangéliser, etc. Et donc c'est en reconstruisant les murs et les portes d'Élisabethville pour faire une ville de paix. Et la ville de paix en hébreu s'appelle Yerushalayim. Donc c'est la demeure, Yerou c'est la ville, le refuge. Pour le shalom. Le shalom, c'est plus que la paix, hein, je suis conscient, mais bon, on n'a qu'un mot en français, c'est la paix. Donc, ce sera Eliabetville, parce que le Yah, c'est le Yahvé. Donc, c'est la ville de Dieu. Nous voulons que Dieu soit glorifié ici, dans cette ville. Quels sont ceux qui ont un cœur, cela? Amen. Quels sont ceux qui vraiment veulent que le Seigneur soit glorifié dans cette ville? Amen. Moi, je suis très très heureux de connaître Jean-Marc Semoulin qui, sur les mureaux, a eu à cœur. Il a déjà assez de boulot comme ça, la gerbe. Eh bien, le Seigneur a eu à mes cœurs que dans sa ville, eh bien, il veut que cette ville soit bénie. Hein? Eh bien, moi, Michel et moi, on est arrivés au Bergenville en 1974, quand j'ai commencé mon activité à l'aérospatiale aux Mureaux. Et on a eu à cœur vraiment cette ville. Aujourd'hui, je l'ai toujours à cœur, un petit peu moins parce qu'on est aussi sur Saint-Martin. Et puis, ma femme et même Florence, maintenant, sont engagées dans cette ville aussi, là où on est. Mais j'ai toujours à cœur Aubergenville parce que c'est une ville refuge. Et on en parlera un petit peu plus loin. Mais que le Seigneur soit glorifié. C'est ça. Si je suis sur la terre, c'est pour que le Seigneur soit glorifié. Je ne sais pas comment vous êtes, mais bon, je peux profiter d'un tas de choses de la vie, mais le plus important, c'est que le Seigneur soit glorifié et que, en partant de ce monde, ben, je peux dire, ma Seigneur, j'ai tout fait pour que ton nom soit glorifié. Alors, je vais vous présenter une vidéo. Je voulais la présenter en partie seulement, etc. Puis, non, j'ai été repris. J'ai été repris pour... elle dure 12 minutes, je crois, ou 13 minutes. Donc, voilà, il faudra attendre la fin pour que je reprenne la parole. Mais cette vidéo va être le support, un petit peu, de ce que je pense que le Seigneur nous appelle à faire. Hein. Ce matin, je vais vous emmener dans une aventure, un voyage hein, que Dieu a préparé d'avance pour nous. Dieu a préparé un voyage pour nous, un voyage individuel, ça peut être notre destinée dans notre vie, mais aussi communautaire. Et il a préparé ça d'avance pour qu'on le pratique, hein, parce que tout est préparé d'avance par le Seigneur. Donc je vais vous emmener au pôle Nord ce matin, hein. C'est un endroit hostile, hein, j'ai jamais été, j'ai pas envie d'y aller non plus, mais c'est un endroit hostile. Mais cette histoire, vous allez voir après, je vais la commenter, va nous unir dans une compréhension du pourquoi on est ici en église, en communauté. Et je peux vous assurer que c'est pas un rêve, mais c'est une réalité. Parce que Dieu a un plan précis pour cette communauté, pour cette ville. Donc, attachez vos ceintures, forcez-vous à ne pas critiquer pendant que vous écoutez, simplement soyez ouverts à recevoir, et ensuite après, je vais vous expliquer. Vous comprendrez où je veux en venir lorsque j'aurai ensuite après la parole pour poursuivre la prédication. Voilà, donc ces deux expériences qui sont présentées par Olivier Soudieu, sur TEDx Alsace. Et le premier, c'est quand il a gravi un des plus hauts sommets de l'Himalaya, 7000 et des poussières de mètres, avec des professionnels. Donc le Himlung Himal, qu'il a gravi. Et le deuxième, c'est le Spitzberg, qui sont des malentendants, qui sont allés sur une montagne qui est la montagne du silence, les montagnes du silence. Ce sont des montagnes qui sont gravies par des malentendants pour faire connaître leur situation. Et ça me rappelle le voyage du pèlerin. Il y en a qui connaissent le voyage du pèlerin de Bunyan. Voilà. C'est tout à fait ça, sauf que là, c'est une réalité qu'il a vécue. Alors écoutez bien.
Ascension du Himlung Himal, 7126 mètres au Népal. 2004, traversée de l'Himalaya intégralement à pied durant un an, 5000 km. En 2010, le support à une expédition de sourds au Spitzberg, une petite île pas très loin du pôle Nord. Quand les journalistes parlent de moi, ils parlent d'un aventurier de l'extrême. Alors je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Ce que je sais en tout cas, c'est que il y a 10 ans à peine, j'étais encore un chef de projet en informatique. Un chef de projet confirmé, certes, mais enfin pas très loin du métro boulot dodo. Et puis aujourd'hui, c'est vrai, ce qui m'intéresse, ce qui me passionne, ce sont les environnements polaires, et en particulier ce que pourrait être la conception et la fabrication d'un tout petit bateau 4,50 m, qui permettrait de se rapprocher du pôle en allant à la voile sur la mer, et puis une fois que la mer gèle, embarquer sur la glace et continuer à avancer grâce à des voiles géantes pendues sous des cerfs-volants. Et ce que je vous propose de faire dans les minutes qui viennent, c'est de partager ce qu'il a fallu désapprendre et réapprendre pour passer de cette vie d'ingénieur en informatique à celle de promeneur du monde. Alors au départ, je suis né en région parisienne. C'est là où j'ai vécu mes premières expériences extrêmes, notamment en matière de pollution. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt les grands espaces. Alors très rapidement, j'ai déménagé à Grenoble. Alors Grenoble, la ville, ça reste la ville. Mais alors autour, waouh, le paradis! La première année, je suis allé en montagne au moins 50 week-ends. Le seul moment compliqué à Grenoble, c'est le printemps. Parce qu'au printemps, vous pouvez déjà faire de l'escalade rocheuse, mais vous pouvez encore faire du ski de randonnée. Alors en sortant du travail, on est obligé de choisir. Grenoble, c'était une vraie découverte de la montagne. Il y avait quelque chose qui vibrait en moi, une espèce de musique qui sonnait juste, et qui m'aspirait, et qui m'inspirait, et qui m'attirait en permanence vers les sommets. Et 2 ans après que je sois arrivé à Grenoble, j'ai eu la chance que dans le club de montagne auquel je participais, soit organiser une expédition sur le Himalaya, ce sommet de 7126 mètres au Népal. Pour moi, c'était une expérience extraordinaire. C'était la garantie que j'allais découvrir la très haute altitude et au pays de l'oxygène rare et vivre des aventures extraordinaires. Alors je suis parti. Je suis parti immédiatement. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi finalement quelqu'un qui a une vie ordinaire se met subitement à faire des choses qui sortent de l'ordinaire ? Ce que j'ai compris, c'est que c'est ce qu'était pour moi vivre. Et pour moi vivre, c'est découvrir. C'est découvrir l'autre, c'est découvrir des grands espaces, c'est découvrir des univers, c'est me découvrir moi-même, c'est découvrir d'autres cultures. Et finalement, ce qui m'attirait vers les montagnes, ce n'était pas le sommet, c'était quelque chose qui était encore plus grand, encore plus loin. Ce qui m'attirait vers les montagnes, ce qui me donnait une énergie formidable, c'était le fait qu'en allant gravir les montagnes, je me réalisais en même temps que je réalisais un petit peu de ce qu'est le monde et que ça faisait profondément sens pour moi. Et ce que j'ai compris, c'est que si on découvre ce qui fait sens pour soi, alors instantanément naît pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, une nouvelle énergie. Cette énergie, ça tombe bien, j'en avais besoin, parce que sur le Himalaya, on était quand même ici sur une arête à 6000 mètres, on respirait trois fois par pas et il en fallait un petit peu d'énergie pour continuer à avancer. Mais il y avait toujours cette ambition, ce sommet, cette espèce d'aimant qui m'attirait vers le haut. Et j'ai eu la chance d'être un de ceux qui ont atteint le sommet. J'ai vécu là-bas des moments absolument fabuleux, extraordinaires. Et pas seulement parce qu'on était sponsorisé par la Chartreuse. J'ai vécu là-bas des moments extraordinaires. Nous avons vécu des moments extraordinaires. Nous étions 9 sur 10 à atteindre le sommet. Sur ce sommet qui avait été gravi que deux fois depuis le début de l'histoire des temps. Les sponsors, ravis. La presse spécialisée, fabuleuse expédition Himalaya. Et chacun d'entre nous, chacun de ceux qui étaient allés au sommet, c'est-à-dire 100% des personnes dans l'expédition qui avaient décidé d'aller au sommet, les 9 qui étaient allés là-haut, nous étions absolument ravis, tout comme était ravie la personne qui avait décidé de faire demi-tour en ayant atteint ses limites. Il y a une seule chose que je regrette un petit peu avec le recul, c'est que la première, c'est que dans notre groupe, il n'y avait pas vraiment une équipe, il y avait plutôt 10 individus chacun sur la montagne. Et puis une autre chose, un détail, c'est que au retour de l'expédition, quand l'avion se pose en France, là, quand on débarque, au sein de notre groupe, la grande majorité des personnes du groupe a pris une décision ferme, c'est de ne plus jamais faire de montagne avec plus personne dans l'équipe. Ça pose un petit problème quand même. Alors pourquoi ça ? En fait, il s'est passé plusieurs fois des événements comme celui que je vais vous raconter. Et fondamentalement, ce qui s'est passé, c'est que, au sein de notre équipe, il y avait des personnes qui étaient parties là-bas avec un objectif de dépassement de soi. Pour eux, le succès du projet se mesurait au fait qu'on ait tenté tout ce qui était raisonnable en termes de sécurité, mais qu'on ait joué toutes les cartes, tout tenté pour atteindre le sommet. D'autres étaient partis avec une idée de se faire plaisir avant tout. Et si en plus on atteignait le sommet, alors ça c'était la cerise sur le gâteau. Et puis lors de la première assaut au sommet, on était sur cette arête-là, 6000 mètres, respiration, 3 fois par pas, 10 heures de marche, et on n'est plus très loin du sommet, alors on n'est pas encore arrivé, hein, mais le sommet est quand même pas très loin. Et là, subitement, la météo tourne du grand beau temps au grand mauvais temps. Quelque chose comme pas loin de 50 cm de neige qui tombe en 30 minutes. Et là, vous avez encore des ensembles, un dépassement de soi sur la corde qui veut absolument aller jusqu'au sommet et tout tenter, et juste derrière, hein, se faire plaisir avant tout. Il y a des tensions, et pas que sur le bout de ficelle, si vous voyez ce que je veux dire. Fondamentalement, que s'est-il passé ? Qu'est-ce qu'une expédition ? Une expédition, c'est un environnement. Alors quand vous allez au pôle Nord, en général, il fait frais. Quand vous allez dans le Sahara à midi, en général, il fait chaud. C'est un environnement, puis au-dessus de l'environnement, c'est de l'humain. Ce sont des hommes, des femmes, qui ont chacun un comportement, qui ont des compétences, qui ont des valeurs et des croyances, qui ont une identité. Et puis l'ensemble de ce dispositif s'inscrit dans un écosystème qui fait sens, qui est connecté au sens ou qui ne l'est pas. Et lorsqu'on a préparé l'expédition Himalaya, on s'est posé la question de savoir quel environnement on allait rencontrer. De la neige, de la glace, bon, très bien, donc quel comportement il faudrait, donc quelles compétences. Et puis on a pris le meilleur matériel. Et puis on a fait des entraînements de fou, on était extrêmement affûtés. Et sur toutes ces questions-là, on était absolument parfait. On s'est centré sur la question de qu'est-ce qu'on va faire, le quoi, l'ascension du sommet, et comment est-ce qu'on allait le faire. Et sur ces points-là, on a été absolument excellent. La seule chose, c'est qu'on a manqué le vrai challenge. Quel était le vrai défi ? Le vrai défi n'était pas de savoir ce qu'il y avait à faire, atteindre le sommet, ni de savoir comment on allait le faire. Le véritable défi, c'était de savoir pourquoi. Pourquoi toi, Olivier, tu veux gravir ce sommet? Pourquoi toi, Carole, tu veux partir là-bas? Pourquoi toi, Fabrice? Pourquoi, pour chacun d'entre nous, on voulait aller faire cette ascension? Qu'est-ce qui faisait sens pour chacun d'entre nous, derrière ce prétexte qui était de faire l'ascension du Himalaya Longimal? Et comme cette question n'a pas été posée, le sens n'était pas partagé. Et comme le sens n'était pas partagé, avec la meilleure équipe et les meilleurs outils du monde, il n'empêche que la cohésion n'était pas là et que le fonctionnement ne marchait pas. Alors à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai compris que le manque de sens conduit à l'échec, alors le manque de sens conduit à l'échec malgré des succès apparents, on s'entend, il peut y avoir des succès de façade, mais profondément, dans la durée et humainement, le manque de sens conduit à l'échec. Le jour où j'ai compris ça, j'ai commencé à mettre du sens dans mes expéditions et à m'intéresser à des expéditions qui faisaient sens. Et j'ai découvert les montagnes du silence. Les montagnes du silence posent des ponts entre le monde des sourds et le monde des entendants à travers les activités de montagne. Et il prépare une expédition au Spitzberg, cette île à côté du pôle Nord, et lorsque je rentre sur le projet, eh bien je me rends compte qu'en termes de compétences, comment vous dire, j'ai jamais vu une bande de bras cassés pareille. On se l'est dit très amicalement, hein, mais à part le chef d'expédition côté sourd et sa femme, les autres n'ont jamais fait de montagne, c'est juste pour aller faire un truc pas très loin du pôle Nord dans un an. Alors on décide de faire des entraînements qui sont limités qu'aux vacances scolaires, parce que sur les week-ends c'est trop court pour venir de toute la France. Et puis on se rend vite compte que le mot piolet n'existe pas, alors il faut l'inventer. Le mot crampon n'existe pas en langue des signes, il faut l'inventer aussi. Et puis on se rend compte d'une chose, c'est que vous êtes en montagne, vous avancez tous ensemble, et il y a une pierre qui tombe pour prévenir du danger, vous criez « Pierre !» Allez crier « Pierre » dans l'oreille d'un sourd. Et encore, je vous parle de là de ce qui se passe l'été, mais je ne vous parle pas de l'hiver, quand on se retrouve à préparer du ski de randonnée sur un glacier du côté de Chamonix, où on se retrouve sur la glace du glacier, il fait moins 15 degrés et l'interprète a des moufles. La langue des moufles avec des... La langue des signes avec des moufles. Enfin bref, tout ça mis ensemble, il y a 1000 difficultés, mais l'expédition arrive quand même à partir. Avec un tout petit budget, pas avec le meilleur matériel. Ils se débrouillent avec des bouts de ficelle et ils arrivent à partir. Par contre, quand ils partent, une chose est sûre, c'est que tout le monde ne part pas seulement faire une expédition, mais part pour démontrer que sourds et entendants peuvent tout assumer au même niveau, et qu'on peut rapprocher les deux cultures, et qu'on a un intérêt à le faire, et qu'il y a une vraie richesse à ça. Donc chacun part avec cette mission-là. Et qu'est-ce qui se passe dans cette expédition-là? Comme dans toute expédition, il y a 1000 petites difficultés. Il y a beaucoup d'ours blancs dans la région où ils vont évoluer. Comme il devait faire très froid, ils avaient de l'équipement, ils avaient des chaussures moins 60 degrés. On est tranquille pour le froid. Il a fait jusqu'à plus 25. Avec leurs chaussures à plus 25, ils ont les pieds qui ont tellement gonflé qu'ils n'arrivaient plus à mettre leurs chaussures, qu'ils ont eu des ampoules qui se sont ouvertes énormes et qu'ils ont été obligés de découper leurs chaussures avec des couteaux pour faire des ventilations. Mais ça ne les a pas empêchés d'avancer. Et puis quand ils sont arrivés là-bas, les guides norvégiens étaient un peu dubitatifs devant cette équipe particulière. Et puis les choses se sont mises en route progressivement et au bout de quelques jours, arrivé le soir, après une grosse journée de marche, c'était le temps d'aller se reposer, les guides allaient se coucher. Par contre, pour les montagnes du silence, pour les sourds et les entendants ensemble, il n'était pas question d'aller se coucher, c'était une deuxième journée qui commençait. On sortait le téléphone satellite, on sortait les moyens de communication, et puis il y avait la liaison pédagogique avec les écoles, et puis les sponsors. Et ça durait jusqu'à 1h, 2h du matin. Mais le lendemain matin, il fallait repartir aux aurores. Alors qu'est-ce que ça donnait ça dans le temps? On pourrait imaginer que le niveau d'énergie a diminué. Au contraire, il a augmenté tout au long de l'expédition, et chaque jour, jusqu'au dernier jour, chaque jour, ils étaient plus rapides que le jour précédent. Et à la fin de l'expédition, en termes de cohésion, en termes d'engagement, c'est des kamikazes, quoi. Si on doit repartir demain, ils repartent tout de suite. Alors pourquoi ça? Parce que les montagnes du silence se posent la question d'abord du sens. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Faisons quelque chose qui fait sens. Ok, on va démontrer que sourds et entendants peuvent vivre ensemble. Est-ce que ça fait du sens? Ça, oui, ça crée la cohésion. Et après, on adresse toutes les autres questions. Soudés par le sens, on réussit, même avec des moyens limités. Soudés par le sens, même avec des moyens limités, on réussit tous ensemble. Et si on compare les deux, où est la performance? Où est la véritable réalisation de soi? Et puis surtout, pourquoi des résultats si différents? Pour l'expédition Himalungimal, voici comment nous avons procédé. On s'est d'abord posé la question du quoi. Quel environnement on va rencontrer? Autrement dit, l'environnement dans lequel on va évoluer, c'est quoi? Et puis après, on s'est dit, puisque c'est cet environnement-là, Comment est-ce qu'on va le faire? Quelles compétences? Quel comportement? Et encore une fois, on était parfait sur ces questions-là, sauf que comme le sens n'était pas là, il n'y avait pas de cohésion dans l'action, il n'y avait pas d'efficacité, donc ça ne marchait pas. Et donc on se demandait, ben, pourquoi? Comme ça, ça nous permettait de trouver la cause. Bon, éventuellement, on tapait un peu sur les doigts de quelqu'un, et puis maintenant qu'on savait pourquoi ça n'avait pas marché, on se demandait, ben, il faut faire quoi? Et on bouclait, comme ça, indéfiniment, sur ces questions-là. Les montagnes du silence font quelque chose de très différent. Les montagnes du silence se posent la question de savoir pourquoi. Pas pourquoi, le mot, en un seul mot, la cause. Pourquoi? Pourquoi faire? Pour quel résultat? Quelle est notre mission? Quelle est notre intention? Qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qu'on veut faire tous ensemble? Et une fois que tout le monde est aligné sur cette question, une fois que tout le monde est d'accord sur la réponse, c'est le moment de se poser la question des modalités, de comment on va faire, comment à travers une expédition, et puis où? Au Spitzberg. Pourquoi? Pour rapprocher deux communautés. Comment? En faisant une expédition, ou au Spitzberg, et tout coule de source. Dans la première expédition, on avait des gens entraînés, hyper compétents. Dans la deuxième, des gens débutants, sous-équipés, et on voit la différence de résultats entre les deux. C'est pas la compétence est importante, mais encore plus de compétence n'est pas forcément la réponse. La réponse est d'abord dans la mission et dans le pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Alors, découvrir ce qui fait sens pour soi donne une nouvelle énergie. Le manque de sens conduit à l'échec malgré le succès apparent. Soudé par le sens, on réussit même avec des moyens limités. Alors, ce que ça me donne envie de vous dire, ce sont les deux, trois choses qui suivent. La première, c'est avant de se lancer dans l'action, ça vaudrait certainement la peine de savoir quel est le sens de notre action et savoir si notre action fait sens. Et puis, une fois qu'on est dans l'action et le nez dans le guidon, d'être chacun d'entre nous les garants du fait que notre action reste alignée avec ce qui fait sens. Et puis, professionnellement, qu'est-ce qui fait sens? Quelle est votre mission? Mon métier, c'est de faire des conférences, des formations d'entreprise, et c'est ça qui finance mes expéditions, c'est ça qui finance ma vie en général. Mais ma mission n'est pas celle-là. Ma mission est très différente. Ma mission, c'est de faire que chaque organisation, chaque personne puisse être à la fois performante et sereine afin de prospérer et de bien vivre dans un monde de plus en plus incertain. Ce n'est pas exactement le même job. J'ai un ami qui est assureur. Est-ce que son métier, c'est de vendre un maximum de contrats d'assurance? Ou est-ce que son métier, c'est de faire en sorte que vous, que moi, soyons protégés de la meilleure façon possible contre les aléas de la vie? Ce n'est pas le même métier. Quel est votre métier? Quelle est votre mission professionnelle? Et à titre personnel, pourquoi est-ce que vous êtes là? Enfin, la question n'est pas de savoir comment vos parents ont procédé pour faire que vous soyez là, mais pourquoi en deux mots? Quelle est votre mission personnelle? C'est important de le savoir, en tout cas de s'interroger dessus, d'une part parce que ça donne une nouvelle énergie, d'autre part parce que, est-ce que vous préférez dans 10 ans, vous retourner, vous poser la question de savoir, vous dire dans 10 ans, voilà ce qu'il aurait fallu que je fasse, ou est-ce que vous préférez vous retourner dans 10 ans pour vous dire, quel bonheur d'avoir fait exactement ce pourquoi j'étais là sur Terre. Quelle est votre mission? Nous vivons dans des sociétés, en tout cas les sociétés occidentales, qui sont des sociétés expertes en matière de faire, de savoir-faire, de process, de processus, de méthode. Il me semble que ce qu'on devrait oublier un petit peu, c'est un petit peu de se faire et de se comment faire. Il me semble que ce qu'on devrait réapprendre, c'est à partager le sens, à s'interroger sur le sens et à bien se solidariser autour d'une mission commune. Ce qu'on devrait oublier un petit peu, c'est le quoi, le comment, le quand, ce genre de questions. Ce qu'on devrait réapprendre, c'est le pourquoi. Pourquoi en deux mots. Pourquoi pour commencer. Pourquoi avant tout. Merci de votre attention.
Voilà, je vais utiliser cette métaphore, cette image de ce qu'on peut faire quand on a un projet, comme c'est le cas ici, comment nous, dans l'Église, on peut rebondir là-dessus. Alors, les niveaux de réalité, il utilise ce modèle, qui est un modèle pyramidal, qui est une pyramide, enfin un triangle, que nous, on a dans le document Ministerium qui a été adopté par l'Église en 2022, qui montre qu'il y a trois niveaux. Hein. Le premier niveau, c'est le fameux sens, hein, qu'ils utilisent aussi dans le monde pour donner du sens à leur vie. Et nous, on le donne dans l'Église. Hein. Le sens, c'est la vision. Hein. C'est la vision et c'est le sens spirituel. Il appelle aussi spirituel. Nous, c'est du vrai spirituel. C'est pas juste la spiritualité. Voilà. C'est le spirituel, c'est Jésus qui actuellement est assis dans les lieux célestes et qui est le chef de l'Église. Il y en a qui croient que Jésus est le chef de l'Église. Ben, si on le croit, il faut le mettre en pratique. C'est-à-dire que Jésus est réellement celui qui dirige l'Église. Et donc, il faut en être conscient. Et c'est le niveau spirituel qui est détaché du niveau terrestre, qui est relié, mais différent. Donc on a le niveau 1 dans le document ministerium qui fait partie de notre compréhension de ce que c'est que l'Église, le niveau spirituel. Le deuxième niveau, c'est le niveau qu'on appelle apostolique. Apostolique, c'est le mot qui veut dire envoyé. Hein. On pense à apôtre, tout ça, mais enfin, le nom, c'est envoyé, celui qui est envoyé. Or, Jésus, c'est le premier apôtre, c'est celui qui était envoyé par son Père. C'est le premier apôtre, si on veut utiliser le mot apôtre, qui était envoyé pour nous sauver. Et ensuite, après, il y a les autres, les premiers apôtres, et ensuite les autres apôtres. On est tous des apôtres, dans le sens où on est envoyé. Sauf qu'on l'utilise un petit peu différemment pour celui qui fonde une église, qui fonde une œuvre, qui fonde, etc. C'est un fondateur. Donc le niveau apostolique, c'est le niveau de l'identité. Qui je suis ? À ce niveau-là, on se pose la question, qui suis-je ? Qu'est-ce que je suis en tant qu'église d'Aubergenville ? Quelle est ma mission ? On retrouve la mission. Quelle est notre mission ? On sait que Jésus a donné une mission à l'église. Avant de partir, il a dit, eh bien, annoncer l'évangile à Jérusalem, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ensuite, il y a les valeurs. Les valeurs, c'est... nous, on a 6 valeurs dans l'Église. C'est les valeurs, c'est les priorités qu'on a. On peut faire un tas de choses, mais on a 6 priorités qui fondent notre manière d'être en communauté. Là, je parle bien en communauté, en Église. Et enfin, le niveau suivant, c'est le niveau opérationnel. Donc ça, c'est le document que vous avez adopté en 2022, niveau opérationnel. Et c'est pour ça que on a maintenant un ministère opérationnel. Le ministère opérationnel, justement, c'est lui qui développe les capacités, les compétences, les actions, les réactions, l'environnement, etc., ce qu'on a parlé tout à l'heure, qui permet effectivement de faire la louange, de faire le ministère, les ministères pour les enfants, pour les jeunes, etc. Voilà. Tout ça, c'est important. C'est important, mais ça arrive à la fin, disons, de cette hiérarchie. Et tout ça, ça nous amène à agir, à faire quelque chose pour le Seigneur. Mais tout ça, ça doit être, disons, orienté, conduit par le sens. Quel est le sens que nous, on nous donne pour que notre action ait du sens ? Alors, pour l'Himalaya, je vais reprendre la vidéo, puisque vous l'avez entendu en totalité, pour le fameux mont, ben, il y avait une absence de vision. La vision n'existait pas. Et c'est pas moi qui le dis, c'est bien l'orateur qui nous le dit. Par contre, il y avait l'opérationnel qui était extrêmement développé, puisque c'était des professionnels qui s'étaient préparés en cet environnement difficile. Hein. Tout le monde ne peut pas faire un 7000 mètres ou un 8000 mètres. Hein. Donc ils se sont préparés, ils se sont concentrés sur les compétences, les capacités, les actions, etc., l'environnement. Mais en fait, ils se sont fait plaisir. C'est-à-dire le sens n'était pas un sens commun de l'équipe, c'est bien celui qui l'explique. C'était chacun a voulu faire plaisir à son niveau. C'est pas mauvais de se faire plaisir. Mais au niveau communautaire, c'est un désastre, puisque la réponse, quand ils sont revenus en France, ils ont dit plus jamais de montagne en équipe. Voilà. C'est-à-dire, voilà, je le fais tout seul. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'équipe possible, puisque pour l'équipe, il faut du sens. Et donc, c'est un échec. Vous voyez, si on reste dans le pas de cette pyramide, qui est le niveau opérationnel, eh bien, on conduit à l'échec. L'autre expérience, c'est le Spitzberg, où effectivement le sens a tout de suite été posé. C'est la promotion des malvoyants. La promotion, l'échange avec les voyants, ou les malentendants, pardon. J'ai mis voyants, c'est malentendants. Donc une relation, développer une relation. Et vous, c'était une vision qui était déjà posée dès le départ. Ensuite, au niveau de l'identité, les missions, c'était développer l'esprit d'équipe. Donc c'était au cœur de leur action. S'ils allaient faire des choses ensemble, c'était ça qui était au cœur. Et après, les capacités, ben, comme il dit, c'est très moyen, c'était des bras cassés, bon. Mais ils sont arrivés jusqu'au bout, et en plus, ils ont augmenté leur énergie pendant la marche. Parce que c'est la vision, c'est le sens qui les a conduits à ce succès. Alors, c'est basé sur cette pyramide des niveaux, hein, qui sont en même temps l'explication qu'ils donnent, et en même temps ce que nous, on a adopté dans l'Église pour expliquer les trois niveaux, le niveau spirituel, Christ, le niveau apostolique et le niveau opérationnel. Là, c'est le niveau opérationnel qu'ils ont développé et qui a conduit une expérience négative. Et dans le Spitzberg, les malentendants, eh bien, c'est le niveau supérieur qui a prévalu dans leur démarche de projet et qui a conduit au succès et une expérience positive. Alors, on va essayer de le traduire dans l'Église. Pourquoi ? Parce que l'Église, ce n'est pas que spirituel. Hein. Je vous vois assis sur des chaises, vous êtes humain. Vous n'êtes pas que des esprits. Hein. Donc, nous sommes spirituels et matériels, et humains. Et très souvent, dans certaines églises, on a l'impression qu'on n'est que des esprits. Et c'est comme ça qu'on peut se permettre, dans le monde de notre corps, de faire des choses qui ne sont pas reliées et qui nous amènent à faire, pas conduire à une communauté. L'Église est un corps complexe. Complexe, pas dire compliqué, ça veut dire tisser ensemble, plusieurs choses ensemble, parfait et imparfait. Moi, je suis parfait en Christ, mais je suis imparfait dans le corps naturel. Et avec une tête qui est parfaite. Jésus est parfait. Il a été sur la terre, et il est encore maintenant, et il le sera pour l'éternité, parfait. Nous, notre imperfection sera enlevée, mais pas tout de suite, c'est après la mort, puisque notre corps doit mourir, notre corps actuel, pour que nous puissions revêtir un corps de perfection comme Christ. Donc ça, c'est pour l'avenir. Ce qui fait qu'on vit une tension, en ce moment, ceux qui suivent la théologie de l'évangile du royaume le savent, c'est cette tension entre le déjà parfait et le pas encore parfait. Donc, cette tension, il faut la gérer. L'Église est aussi un mystère. Le mystère du Dieu tout autre, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec l'humain, qui est celui qui est créateur de toutes choses, qui travaille avec nous et en nous. C'est un mystère qu'on ne peut pas expliquer ni comprendre, mais qui est révélé dans la parole. Alors, si on prend Éphésiens 4, 5, mais il y a bien d'autres références, hein, vous pouvez prendre d'autres références, les chercher, eh bien, il est écrit qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Et vous, on est devant ce mystère. Mystère incompréhensible, et qui nous est révélé dans la parole, où Dieu, le Père de tous, eh bien, au-dessus, il est tout autre, il est parmi nous, et il est en nous. C'est la révélation de la Trinité, en fait, qui est manifeste ici. L'Église est aussi une expérience spirituelle. Je suppose que vous avez tous fait l'expérience de la nouvelle naissance. Il y a aussi un autre terme qui dit « naissance d'en haut ». Naissance d'en bas, c'est naturel. Naissance d'en haut, c'est par l'esprit. Donc, en fait, on a deux naissances. Naissance naturelle, naissance spirituelle. Donc, on a deux natures. Une expérience de deux natures, spirituelle et humaine. Et tout ça, nous sommes dans une église avec ces deux natures, chacun d'entre nous, avec toutes les cultures, etc., que ça représente au niveau de la nature humaine. Et l'église est aussi une aventure, mais pleine d'embûches. Pleine d'embûches. À l'instar de ce qu'on a vu sur le Spitzberg, où il y a même des ours blancs qu'ils ont rencontrés, etc. Et ceux qui en connaissent le Pilgrim's Progress, c'est le voyage du pèlerin de John Bunyan, il y en a qui l'ont vu et il est sous film maintenant. Quels sont ceux qui le connaissent? Voilà, vous pouvez le regarder en film. Hein. Maintenant, c'est un livre qui a été écrit par John Bunyan. John Bunyan, c'était quelqu'un qui n'avait aucune culture, dans le sens où il était ferblantier. Et Michel, qui a fait la Sorbonne, eh bien, les profs ont dit « on ne comprend pas ». On ne comprend pas qu'il ait pu écrire des choses comme ça, tellement profondes, tellement extraordinaire, ce fameux John Bunyan, et il a écrit Le Voyage du Pèlerin. Et en fait, si vous prenez Le Voyage du Pèlerin, c'est un petit peu ce qu'ont vécu dans le Spitzberg. Ça explique comment le chrétien, il est agressé tous les jours, toute sa vie, de toutes sortes d'épreuves, et comment il s'en sort, et comment il prend des dispositions pour avoir la victoire. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Mais l'Église a une fin glorieuse. Et c'est ça qui me passionne, moi. Hello ? Ça ne vous passionne pas d'être un jour dans la gloire ? La gloire nous attend, les amis. La gloire, c'est le sens. Le sens de notre existence en tant que chrétien et en tant que communauté, c'est la gloire dans la présence du Seigneur. Et tous ensemble. Parce que l'Église, on ne sera pas tout seul, hein, comme certains le pensent. Non, non, on sera ensemble. Cette Église que le Seigneur s'est rachetée au prix de son sang, nous serons ensemble. Non. Et c'est pour ça que c'est bien que dans l'Église locale, on apprenne à fonctionner ensemble pour faire quelque chose sur le plan humain de ce que Dieu nous a destiné en tant qu'Église. Alors là, c'est le fameux flyer là que je présente là. Ceux qui l'ont pas, on peut le réimprimer. C'est un flyer que on a sorti en 2010, hein, qui présente effectivement notre vision. Hein. Donc il y a la vision et la mission. C'est les deux choses importantes. À l'époque, je me suis arrangé pour que il y ait l'acrostiche. Hein, l'acrostiche, c'est une lettre, et ensuite après, il y a des mots qui suivent après. L'acrostiche, accueillir, le A. Accueillir, le dessein, la vision de Dieu. Le C, le B, c'est bénéficier de la sagesse de Dieu. Hein. Donc c'est le B, et le C, c'est centrer sa vie sur Christ. En fait, c'est l'ABC. Comme souvent on utilise l'ABC, les rudiments, l'ABC des mathématiques, l'ABC... Voilà. Donc en fait, c'est pour se rappeler que notre vision de base, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on fait, c'est eh bien, accueillir le plan de Dieu, bénéficier de sa sagesse et centrer notre vie sur Christ et sur la croix. Donc ça, on l'a adopté et c'est censé être à la base de tous les membres de l'Église de connaître cette vision et le contenu de ce flyer. Mais c'est pas toujours le cas. Je développe un petit peu cet ABC hein, de notre vision qui est tournée entièrement sur la gloire de Dieu. Et c'est ça le sens. Le sens, c'est que nous, on veut se tourner vers la gloire de Dieu. Tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Accueillir le dessein, donc le plan originel que Dieu a pour nous et pour l'Église, et la vision qui va avec. C'est bénéficier de la sagesse de Dieu de manière à pouvoir s'opposer à la sagesse du monde. Parce que la sagesse du monde est une sagesse, hein, Paul le rappelle, mais c'est une sagesse qui ne conduit pas à la croix, qui conduit à nous satisfaire nous-mêmes et à rester dans cette base de la pyramide. Et centrer notre vie sur Christ et sur la croix. C'est une éthique, la croix. C'est mourir à soi-même. Et ce qui est formidable, c'est que Gilles, qui nous a aidés à gérer ce qu'on avait du mal à gérer entre nous, nous a ramenés sur ce point en janvier 2024. Et c'est grâce à son intervention qu'on a pu se retrouver sur le roc de la parole et retrouver un petit peu pied à nos enracinements sur la parole. Je rappelle juste quelques versets qui soutiennent ce que je suis en train de dire, c'est 1 Corinthiens 1:31. Afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. que toute notre gloire ne soit pas à nous, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, que tout ce que nous fassions, que nous faisons ensemble, que nous ferons ensemble, eh bien, soit pour la gloire du Seigneur. Parce que si on le fait pour la gloire du Seigneur, eh bien, nous bénéficierons de sa gloire. Mais non pas parce que nous le faisons dans cette optique-là, mais parce que nous le glorifions et que, eh bien, il va nous glorifier à son tour. Dans Jean 12, 28, il est dit « Père », enfin c'est une prière, hein, « Père, glorifie ton nom ». Et une voix du ciel dit « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore ». Voyez-vous, ça c'est l'objectif du Père, de glorifier son Fils et de glorifier les chrétiens que nous sommes, nous sommes des petits Christ. Dans Jean 8, 54, Jésus répondit « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui, que vous dites être votre Dieu. » Voyez-vous, l'orientation de Jésus, quand il était sur la terre, c'était de glorifier son Père. Et le Père, à son tour, glorifie le Fils. Voyez-vous ? Mais c'est une réponse, un peu comme dans l'amour. Hein. On aime quelqu'un et ce quelqu'un eh bien, nous aime en retour. C'est le principe dans le couple qui doit prévaloir entre l'homme et la femme, l'initiative, la réponse, etc. Et ça, c'est entre le Père et le Fils que ça se produit. C'est un modèle pour nous d'amour. Et l'amour, Jésus l'a défini dans Jean 17. Dernier verset pour sous-tendre ce que je suis en train de vous dire, c'est Jean 13, 31. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, donc c'est au moment où Judas l'a trahi, il est sorti de la pièce, et Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera partout. » Vous vous rendez compte le nombre de glorifications qu'il y a dans cette phrase de Jésus, hein, ça prendrait tout un message pour parler là-dessus. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant qu'il était sur la terre, Jésus lui-même s'identifiait au Fils de l'homme. Il n'utilisait jamais Fils de Dieu. D'ailleurs, il interdisait aux disciples de le dire, parce qu'il était Fils de l'homme à ce moment-là. Mais en tant que Fils de l'homme, il a glorifié son Père. Pourquoi? Parce qu'il a toujours fait sa volonté. Parce qu'il cherchait dans la prière ce qu'il devait faire, les choix de ses disciples, etc. Enfin, tout ce que faisait Jésus, il le faisait dans la prière. Et donc, il a glorifié son Père. Eh bien, en retour, Jésus sera glorifié au travers de la résurrection et au travers de la place qu'il a à la droite de Dieu pour conduire toute chose. Il y a trois termes qui sont liés. Vision, révélation, évangélisation. Se préparer à recevoir la vision de Dieu, donc je vais vous lire juste quelques passages de ce livre qui nous aide, Michel et moi, à préparer les trios de croissance. Hein, ceux qui suivent les trios de croissance, principe tout le monde. Bien voilà ce que dit Mario Saint-Pierre. Toute la Bible est en quelque sorte vision. C'est-à-dire qu'elle nous offre la vision de Dieu pour la réalisation de son plan de salut. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à ce que la Bible réponde à des questions scientifiques. Ce n'est pas un livre scientifique. C'est un livre de la vision de Dieu pour réaliser le salut de l'homme. La révélation biblique nous présente la vision de Dieu pour sauver l'humanité. Nous verrons dans un chapitre ultérieur comment nous pouvons, avec un peu de nuance, articuler vision et révélation. Mais ici, nous comprenons de manière unifiée le lien qui existe entre les deux mots, compris dans une perspective trinitaire. Et un petit peu plus loin, il dit la chose suivante. Si une vision est une image, hein, puisque mon vision c'est voir, est une image de ce que Dieu veut faire dans son Église, si la clé de la vision nous relie à Dieu, dans ce qu'il veut faire dans son Église, en un lieu, en une époque particulière. Et si Dieu veut nous donner sa vision, alors il faut se préparer pour accueillir la vision de Dieu, que Dieu veut nous donner. et se préparer à recevoir la vision est une étape importante. C'est pour ça, en ce moment, dans les trios, c'est la première étape de Néhémie, c'est accueillir la vision et la définir. Et ensuite, après, on va plus loin de la contextualisation. La vision et la révélation sont liées, car Paul parle de l'Évangile comme d'un mystère qu'on ne peut comprendre que par révélation. Il utilise beaucoup le mot mystère. Et ce n'est pas un secret qui va rester secret, c'est un secret qui est révélé à ceux qui aiment Dieu. Comme la question de l'identité de Jésus, quand Jésus demande à ses disciples « Qui dites-vous qu'est-ce que les gens disent que je suis ?» Lui, qui se définit fils de l'homme, ils auraient dû dire « c'est le fils de l'homme ». Alors il y en a qui disent « c'est Jean-Baptiste », d'autres qui disent que c'est je ne sais pas quelle est la réponse qu'ils ont donnée. Et Pierre, d'un seul coup, dit « Seigneur, tu es le Christ, le fils de Dieu ». Et là, Jésus lui dit « Pierre, ce n'est pas toi, c'est mon Père qui t'a révélé ça ». Pourquoi ? Parce qu'il est en train, Pierre sans le savoir, de dire un mystère. Le mystère du fait que Jésus, qui est le fils de l'homme, il est homme, il mange comme les hommes, il parle avec les hommes, il est intégré dans la société de son époque, etc. Eh bien, en même temps, il est fils de Dieu, et ça, c'est un mystère. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a toute une partie de l'humanité qui ne comprend pas qu'on parle de fils de Dieu. Et Pierre l'a compris. Mais il l'a compris par révélation. Parce que quelques minutes après, il sort quelque chose où Jésus dit « Regarde-moi Satan », parce que ce n'est pas les paroles de Dieu. Donc là, il s'est laissé inspirer par le Saint-Esprit pour dire une vérité qui est une révélation. Donc vision, révélation, c'est lié. Et dans l'évangélisation rime avec vision et révélation, parce que c'est l'annonce de la bonne nouvelle. C'est annoncer que Jésus est homme et il est Dieu en même temps. Et le phare dont nous sommes dotés de cette vision du phare et de la ville refuge ne peut être compris que par révélation. Alors, je ne vais pas refaire témoigner Constant ce matin, mais il l'a déjà fait plusieurs fois. En fait, il a reçu la vision du phare par révélation, alors qu'il ne fait pas partie, il n'a pas fait partie de l'Église. Il est venu comme ça dans l'Église il y a quelques années, alors que cette révélation, on l'a reçue il y a plus de 33 ans, qu'on serait un phare, que l'Église serait un phare. Donc on peut recevoir la vision par révélation, sans même comprendre exactement d'où ça vient et quelle est l'origine, etc. On a dû expliquer après à Constant que c'est quelque chose, effectivement, qui a été révélé, déjà dans le passé, mais qui est là, c'est une réalité qu'on découvre lorsque on est ouvert à l'esprit. Alors, pour appliquer la fameuse pyramide dont on parlait tout à l'heure à l'Église, eh bien, on a, nous, adopté donc cette compréhension de ces trois niveaux hiérarchiques, spirituels, Christ, qui est la tête, apostolique de ceux qui fondent les choses et qui fondent la vision, et ensuite l'opérationnel de ce qui est à faire tous les jours dans une église pour que les ministères opérationnels. C'est le sens révélé qu'on a reçu de 2000 à 2018. Parce que l'Église a été refondée en 2000, après une période où on était CCY, qu'on est devenu Église protestante d'Aubergenville. Donc cette vision a été établie en 2000. Mais de 2019 à 2024, cette vision a été perdue. Et ce n'est pas une gageure de le dire, puisque moi-même je sentais que la vision se perdait, et j'ai demandé à David Alonso de venir m'aider à la communiquer. Mais en fait, il se trouve que au lieu de m'aider à la communiquer, il a dit on va la réécrire. Ok, il m'a pas demandé mon avis, il l'a communiqué directement. Je dis pourquoi pas, si c'est le Seigneur qui conduit, pourquoi pas. Sauf que on a créé le GARVI, donc le groupe d'accompagnement de la réécriture de la vision, Et au bout de 2 ans de travaux, je me suis aperçu que lorsque ça a été présenté, le phare n'était pas du tout évoqué. La vision qui a été revue par l'ensemble des membres de l'époque, c'était une vision classique d'église. C'était pas à côté de la plaque, hein. Une église doit être ceci, doit être cela, etc. Mais c'est au niveau de la base de la pyramide, c'est-à-dire les compétences, la manière dont il faut faire, etc., etc. Mais pas la vision. Or, vous avez vu suffisamment longtemps le clip pour comprendre que c'est pas la vision. Et bien derrière, il y a plusieurs visions. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de ne pas avoir de vision. Chacun de nous a une vision. C'est évident. Et surtout, quand on vient d'une autre église, on a une vision. Et on ne peut pas s'empêcher. Ça s'appelle des préjugés, ça s'appelle une façon de voir les choses, etc. Et si on ne se met pas d'accord sur une vision, celle que Dieu a donnée à cette famille que nous représentons ici localement, eh bien, tôt ou tard, ça mène une division. Ça amène que chacun va suivre sa vision. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans cette épopée où il l'a dit, quand ils sont revenus en France, ils ont dit, ok, la montagne, oui, mais avec personne dedans. C'est-à-dire que moi, je fais de la montagne tout seul, chacun fait de la montagne tout seul. Voyez. Donc du coup, c'est une conséquence de ce qu'un manque de vision commun amène une division au sein de l'équipe. Et donc, ils ont tourné en rond, parce que chacun suivait sa propre voie. D'ailleurs, c'est marqué dans les juges, c'était déjà, à l'époque, c'était déjà le cas. Or, 2024, c'est-à-dire vous qui êtes assis sur vos chaises, et déjà depuis 2023, on a retrouvé le sens de cette Église. Et Dieu a permis que ce soit révélé à Constant, qui ne connaissait rien du tout. J'ai compris après pourquoi le Seigneur l'a choisi, parce qu'il avait fait du combat spirituel qui n'était pas approprié, et puis on a pu parler de ça, etc. On a, pendant un an avec Charles, on a cheminé là-dessus. Parce qu'en fait, on a besoin d'une vision, et pas de plusieurs visions. Et c'est la vision du Seigneur, c'est pas la nôtre. C'est celle que Dieu a mise ici. Or, la vision que Dieu nous a donnée, elle a commencé il y a 500 ans, voyez-vous. C'est-à-dire, moi j'étais pas né, personne n'était né ici. Il y a 500 ans, la personne a donné une vision à cet endroit où il veut établir une église à Aubergenville. Et donc le sens de cette vision, c'est d'établir une ville refuge. Il y en a qui savent ce que c'est qu'une ville refuge. Non. En fait, c'est chez les protestants, l'église réformée, enfin les chrétiens réformés qui ont réformé, qui ont voulu, ils n'ont pas voulu quitter l'église catholique, ils ont voulu la réformer. Donc c'est pour ça qu'ils sont appelés réformés. Les chrétiens réformés ont été persécutés à l'époque parce que le roi voulait une seule religion, etc., dans son royaume. Donc ils ont été persécutés, etc. Et il y a eu des villes qui ont été appelées villes refuges. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a quelques-unes, et Aubergenville est une ville refuge. Dans les Cévennes, il y a pas mal de villes refuges. Il y a des pays refuges aussi. Les protestants, à l'époque, huguenots, sont partis en Allemagne, en Hollande, beaucoup, en Allemagne, à Londres, etc. Donc c'était des pays refuges. Et d'ailleurs, l'économie française s'est écroulée à ce moment-là, parce qu'ils ont emmené tout avec eux, et c'était une catastrophe au niveau économique. Parce que les protestants, à l'époque, étaient engagés dans l'économie, en particulier le tissage, etc. Donc, il y a eu des villes refuges qui avaient une bénédiction particulière de Dieu. Et la ville d'Aubergenville est une ville refuge. D'ailleurs, au début, quand on a commencé l'église ici, on avait Paulette qui est morte depuis, qui avait son arrière-grand-père qui était pasteur d'Aubergenville ici, qui faisait la tournée, parce que les pasteurs faisaient plusieurs paroisses, et parce qu'il y avait un temple à Vaux-les-Huguenots, et si vous allez dans le quartier de Vaux, ça s'appelait Vaux en Aubergenville d'ailleurs, qui est de l'autre côté de la commune, puisque là, la commune côté nord, côté sud, il y a les traces de cette période où il y avait une bénédiction, parce qu'il y avait Paul Spifam, qui est le bras droit de Calvin, qui était ici, et que Dieu a béni cette ville, et qu'il y a dans le sol la bénédiction. Et les prophètes qui sont venus ici, ils ont senti dans le sol qu'il y a une bénédiction. Parce que vous voyez, quand le sang des martyrs coule, un nombre d'années que Dieu a donné la bénédiction, il y a une bénédiction. Et Anne Griffiths en particulier, qui nous suit toujours, eh bien, elle est venue, elle a vu cette bénédiction qui est là. Donc en fait, on est au bénéfice d'une bénédiction. Et ce n'est pas de notre fait, ce n'est pas de notre grâce, c'est nos antécédents. Et parce que Dieu a béni quelqu'un qui, ici, a eu le respect des autorités, c'est Paul Spiffham, d'ailleurs, qui remonte dans la famille de Julie Rollet, je vais regarder, hein, qui, dans les arbres généalogiques, on retrouve Paul Spiffham. Donc il y a une bénédiction aussi dans l'Église au travers de cet ancêtre. Hein. Voilà, juste pour finir, parce que tout ça, j'essaie de l'expliquer dans les vidéos que je vous envoie et qui sont à votre disposition dans les trios de croissance. Donc le sens a été retrouvé en 2023. Et c'est ça qui m'a fait que je reste ici, en tant que pasteur. Sinon, je serais parti. Hein. Avec tout ce que j'ai vécu, je peux vous dire que... de toute façon, j'ai jamais eu aucun centime de l'Église, parce que j'avais mon propre travail. Hein. Mais je l'ai fait par appel du Seigneur. Et quand en 2023, il y a Constant qui me dit « ça y est, j'ai compris la vision », je lui dis « mais comment t'as fait ?» J'ai posé la question presque toutes les semaines, je lui dis « explique-moi, il ne peut pas expliquer, c'est une révélation ». Donc il a compris. Et après Charles a suivi, moi-même on a fait ce trio du phare pendant un an, on continue à prier. Et maintenant on fait les trios de croissance pour que tout le monde puisse recevoir cette révélation. En tout cas, déjà que tout le monde puisse recevoir la connaissance de cette vision, pour qu'on puisse l'adopter. Parce que sinon, on sera comme dans la montagne de l'Himalaya, on va essayer de se faire plaisir dans l'Église, et on n'arrivera à rien. On va simplement dire, au bout d'un certain temps, « Ah ben, tout ce qu'on veut, c'est une Église sans jamais personne dedans, vous voyez ? Pas d'équipe. » Alors que si on est comme dans la deuxième expérience des Spitzbergs, on va dire, c'est super, on souffre, on a des problèmes, mais on a du sens, on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on est là, on sait que le Seigneur va bénir, etc. Donc ça change complètement les choses. Voilà, donc je l'ai dessiné par cette église, et maintenant on a un temple, il n'y avait pas de temple ici, c'était une ruine. Hein, moi je suis arrivé, les chrétiens de l'époque ils m'ont dit, tu es fou d'acheter ça, c'était une ruine, et tomber en lambeaux. Or, là, aujourd'hui, ce n'est pas une ruine. Il fallait avoir la foi pour le croire. Mais aujourd'hui, on est dans un nouveau challenge, c'est de construire les murs et les portes de cette ville, parce que Dieu veut bénir la ville. Il ne veut pas bénir uniquement les chrétiens qui viennent ici, mais toute la ville. Comme il y a 500 ans, c'était un refuge pour les chrétiens de l'époque. Alors, la vision... il l'a rappelé hein, sous Dieu que la vision des montagnes du silence, c'est un, faire connaître les montagnes de la terre aux personnes sourdes, favoriser les échanges entre les personnes sourdes et personnes entendantes, promouvoir la langue des signes. Et moi donc j'ai fait la même chose au niveau de l'Église, hein, de ce projet de refuge et de construction du refuge. Et je propose la définition de la vision de la manière suivante. Développer ensemble la passion de la vie en communauté, inspirée par l'esprit, établie par la parole, dans l'émerveillement du Dieu créateur et père. C'est-à-dire que c'est les trois personnes de la Trinité qui nous passionnent. Je ne sais pas si vous, moi ça me passionne. De connaître le Père, comme Jésus l'a connu, de connaître le Fils et de connaître le Saint-Esprit. En plus, on est pentecôtiste et voilà, on a cette passion aussi pour la Pentecôte où le Saint-Esprit est arrivé avec puissance. Le deuxième élément de la vision, c'est favoriser les relations fraternelles dans l'amour. L'amour don, pas l'amour émotif. C'est bien l'amour émotif, mais ça ne va pas loin. C'est l'amour don de soi. Et reçu, c'est-à-dire un échange entre les personnes de l'Église. Et partager la révélation de l'amour de Dieu et son dessein bienveillant qui consiste à partager sa gloire. Le Seigneur veut partager sa gloire avec nous. Et c'est ça notre objectif, c'est de retrouver la gloire avec le Seigneur, cette gloire dont Jésus a été revêtu et qui veut nous revêtir aussi. Voilà, donc on va améliorer la vision ABC, qui va toujours rester, parce que c'est la base de la vision, mais en mettant ces éléments par-dessus de manière spécifique à l'EPEA. Le deuxième, le verso, lui ne change absolument pas, c'est la mission, les valeurs, etc., qui restent pareilles. Je termine par évoquer la stratégie de Dieu pour Gédéon. Vous savez ce qui s'est passé au temps de Gédéon? C'était la catastrophe en Israël. Ils étaient tout le temps visités par les ennemis. Les ennemis venaient, ils attendaient d'ailleurs qu'ils arrivent à la moisson, comme ça ils n'avaient pas beaucoup de boulot, ils avaient juste à prendre le blé. Hein. Et donc Gédéon était là en train de battre le blé, et les ennemis attendaient qu'il ait fini pour prendre le grain et partir. Et ils étaient sans arrêt, ils étaient visités par les voleurs qui étaient autour d'eux, et puis ils étaient... Enfin, Dieu a appelé Gédéon. Gédéon avait 32 000 hommes. Il a diminué le nombre d'hommes pour arriver à 300. 300 contre 132 000 en face. Est-ce que vous trouvez que c'est possible? Même des guerriers qui sont valeureux. 300 personnes contre 132 000. Eh bien, c'est une mission impossible. Mission impossible. Pourquoi? Parce que Dieu veut se glorifier. C'est-à-dire qu'il nous rend faibles pour que lui reçoive la gloire. C'est ça l'objectif. C'est toujours comme ça que Dieu agit. La reconstruction des murs de Jérusalem pour la vision de Néhémie que vous avez dans les trios, c'est le parcours cette année. En combien de temps Jérémie a reconstruit la muraille de Jérusalem? Combien? Néhémie. Enfin, Néhémie et son équipe, hein, l'équipe. Combien de temps? 52 jours, c'est marqué là. 52 jours. On est compte, 2 mois et demi. 2 mois et demi. Alors, soit la Bible se trompe, elle dit n'importe quoi, moi je ne crois pas. Soit il y a quelque chose. Soit il y a un schmilblick là, hein, comme on dit. Il y a un secret. C'est quoi le secret? Parce qu'ils ont fait une équipe. Et c'est ça qu'on apprend dans les trios de croissance. C'est comment faire cette équipe pour aller au Spitzberg au lieu de se retrouver divisé après. C'est pour faire corps et pour rendre toute la gloire à Dieu. C'est ça l'objectif. Et je peux vous assurer que cette ville, d'Élisabethville, eh bien, elle peut être restaurée en très peu de temps lorsque nous serons prêts. Hein. Lorsque nous serons prêts. Lorsque nous aurons tous la vision. Lorsque nous aurons reçu la vision révélée de Dieu. Et après, le Seigneur pourra nous utiliser, parce que c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire, selon son dessein bienveillant. Et ça, c'est un dessein bienveillant. Donc les 300 soldats de Gédéon étaient soudés avec le sens de gagner la bataille, quels que soient les moyens. Et les moyens, à la fin, c'était humiliant. Hein. Gédéon a dit, vous prenez des cruches, etc., vous tapez sur les cruches, etc., devant une armée de 132 000. Il fallait avoir la foi. Et c'est pour ça qu'il fallait que des gens ne soient pas imbus de leur propre capacité. Il fallait qu'ils obéissent à Gédéon. C'est l'obéissance. Vaut mieux que les sacrifices. Et c'est grâce à cette obéissance qu'ils ont gagné, parce que c'est Dieu qui a mené le combat. C'est pas les 300 hommes. Vous voyez ? Pareil pour Néhémie. Néhémie, les habitants de Jérusalem, il a fait tout ce travail-là, c'est justement le trio de croissance qui va vous l'apprendre, accueillir, définir, contextualiser, communiquer, et ensuite après réaliser. Donc c'est toutes ces étapes que Néhémie a fait, et c'est le meilleur dans toute la Bible qui explique comment faire un projet, comment monter un projet. Et c'est ce qu'on est en train de faire dans les trios de croissance dans l'Église. Dans les deux cas, le projet a réussi. Dans les deux cas, l'Israël était délivré et Jérusalem a retrouvé son honneur. Un reste, nous sommes le reste, mais on ne va pas rester le reste. Hein. Le Seigneur va ajouter chaque jour à l'Église ceux qui sont sauvés. Et le reste est appelé à reconstruire Élisabethville. Nous sommes là. L'ennemi a tout voulu faire pour qu'on n'y arrive pas. Le problème, c'est que Dieu, à un moment donné, dit stop. C'est pas nous, c'est Dieu. Dieu dit, trop c'est trop, on arrête les frais. Et le reste, eh bien, je vais l'utiliser Il est faible, mais moi je vais le fortifier pour reconstruire la ville d'Élisabethville. Et je vous apprendrai dans la suite, le prochain qu'on prépare avec Michel, la vidéo, comment contextualiser la vision de Jérusalem à Élisabethville. C'est la contextualisation. C'est-à-dire que c'est la même chose, sauf que c'est dans le contexte d'Élisabethville, et ce sera notre prochaine série qu'on est en train de préparer avec Michel. C'est mission impossible, les amis. Mais c'est parce que c'est mission impossible que ça va se faire. Parce que toute la gloire va être... On ne pourra jamais dire « Ah oui, mais c'est l'église d'Auberge-en-Vie qui a fait ça. » C'est pas possible. C'est pas possible. Reconstruire une ville, je parle spirituellement, hein, on ne va pas prendre le marteau et le ciment, comme cet après-midi, mais spirituellement. Et je peux vous dire que quand vous saurez ce que c'est que cette ville, vous allez pouvoir prier, vous engager, venir dans la chapelle de prière, intercéder, comme on le fait en ce moment à 3, mais on le va faire à 4, à 5, à 6, à 10, etc. Et tous les chrétiens de cette région, je vais maintenant bien voir les pasteurs pour les aider, parce qu'on va préparer l'inauguration de cette chapelle de prière. Et cette ville sera une ville de paix. Sera une Yerushalayim, une ville de paix, où la paix va être là, où les gens vont venir de partout en disant « Mais comment ça se fait que cette ville est si paisible ?» Parce que la gloire du Seigneur va être au milieu de nous. Amen. C'est une demeure de paix. Alors, je termine par l'histoire pour dire que nous avons vécu 5 années de crise pour saisir la vision du phare. Le plus important, c'est qu'on arrive à cela. On se fiche des crises, on regarde à ce que Dieu veut faire. Pour Dieu est une réalité. Le phare est une réalité pour Dieu. Parce que Dieu ne vit pas comme nous dans le présent. Il vit dans le passé, le présent, le futur. Il vit dans la réalité de ce que c'est. Le phare, il existe déjà pour Dieu. Il veut simplement que ceux qu'il appelle... qui répondent oui, il va les utiliser, c'est tout. Mais pour Dieu, ce phare existe, il a déjà existé il y a 500 ans, il existera encore par la suite, parce que Dieu l'a décidé. Parce que Dieu a décidé que cette ville soit une ville-refuge. Donc, car le temps, pour Dieu, n'existe pas, et c'est à nous d'entrer dans ce dessein de Dieu, qui est hors temporel, n'est pas dans le temps, il existe. Donc on y va ou on n'y va pas. C'est la foi, vous voyez ? On marche par la foi. On peut comprendre que le diable a cherché à nous diviser en nous privant de la vision du phare et on pourrait s'en lamenter. Mais l'ennemi fait toujours une œuvre qui le trompe et Dieu tourne toujours le mal en bien. Ces 5 années nous ont fait passer par le tamis de Dieu, comme du temps de Gédéon, lorsque Dieu voulait sauver son peuple tout en voulant manifester sa gloire. Il a fait passer l'armée de Gédéon de 32 000 à 300. Et révélé l'issue de la bataille à 2 personnes seulement, Gédéon et son serviteur. C'est Gédéon et son serviteur qui a eu la révélation, quand il est descendu dans le camp, qu'il a entendu le songe. Sachez que nous aussi, on a eu des songes en 2018, qui nous ont prévenu des choses qui allaient arriver. Le problème, c'est qu'on n'entend pas toujours, et qu'on ne comprend pas les songes que Dieu nous donne. Là, il a compris, et il savait que le lendemain, il avait la victoire. Et c'est pour ça qu'il a pu commander... En disant, vous prenez vos cruches, vous les détruisez, il a eu la victoire. Parce qu'il n'a pas utilisé les épées, il a utilisé les instruments que Dieu lui a montré qu'il fallait prendre. Et nous, Dieu aussi va nous montrer les instruments. Les instruments, c'est la chapelle de prière, c'est l'intercession, c'est le combat spirituel, c'est la connaissance d'une vision, et pas de plusieurs visions. Parce que sinon, on termine comme on a vu dans le clip. Voilà, c'est ça les secrets que Dieu nous donne. L'ennemi a pris peur avant même l'engagement de la bataille au temps de Gédéon avec Israël. Et l'ennemi, il a peur. Il a peur de toi, il a peur de nous, il a peur de cette Église qui se lève et qui va relever le défi. Il a voulu semer le chaos, mais c'est lui qui va se détruire mutuellement dans le chaos. Sinon, on se lève et on regarde au Seigneur. La Bible ne donne pas de détails sur les 2900 Israélites qui ne sont pas venus avec Gédéon, peu importe. Nous n'avons pas à juger des gens qui sont partis ou pas partis, etc. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est ceux qui restent, nous qui restons. Est-ce qu'on relève ce défi et nous entrons dans la réalité de ce que Dieu, la vision de Dieu pour nous. Cherchons-nous donc pas les raisons du départ des mondes, mais soyons assurés que Dieu veut que la victoire que nous allons vivre soit attribuée à lui seul. Nous sommes faibles, mais alors que nous sommes, c'est alors que nous sommes forts, c'est dans la faiblesse que nous sommes forts, parce que nous comptons sur le Seigneur. Dieu cherche des chrétiens passionnés, c'est ça qu'il cherche, qui ont une vision et une mission, et qui en trouvent du sens à leur vie communautaire. Regardez les disciples, ce qui fait sens pour les apôtres, c'était de témoigner du Christ ressuscité. C'est vrai qu'ils l'ont vu ressuscité. Nous, on le croit par la foi. Et d'aller porter la bonne nouvelle de l'évangile du royaume. Et c'est ça que Dieu nous appelle à faire. Le sens pour nous, c'est de témoigner du Seigneur et travailler à la construction du phare de la ville refuge d'Élisabethville par notre qualité d'amour. Car Dieu l'a annoncé par de nombreux prophètes, que ce soit Pierre Benier, Ian Griffiths, Monsieur le Duc, c'était même un directeur du Crédit Mutuel qui m'a dit, Monsieur Hubert, ça, vous serez un centre de rayonnement dans cette région. Jules Taubois, Andréa, etc., bien d'autres. Parce que c'est des réalités, parce que les prophètes sont les réalités. Vous voyez, ils disent pas des choses qui leur viennent comme ça, parce que les vrais prophètes, ils sentent des réalités qui existent. Il a révélé à Constant, comme je le dis, à Charles, à moi, Michel, Marie-France et d'autres dans le passé, et maintenant il faut le refaire revivre. Et il est enseigné et révélé aux membres des trios de croissance en ce moment. Et c'est ça le but des trios de croissance. C'est que tous les membres de l'Église puissent rentrer dans la vision. Parce que dans le passé, moi j'ai fait trop de... je suis trop gentil, on me dit que je suis trop gentil... C'est un peu ma nature. Je dis, voilà, les gens ne veulent pas la vision, etc. Mais non, si on ne rentre pas dans la vision, mes amis, on ne peut pas y arriver. Vous avez vu? C'est pour ça que le Seigneur m'a dit, non, laisse toute la vidéo se dérouler pour que vous puissiez comprendre que même dans le naturel, on n'arrive pas. Alors, encore plus dans le spirituel. Parce que dans le naturel, il n'y a pas de démons qui vont essayer d'empêcher qu'ils arrivent au sommet. Mais pour nous, je peux vous dire qu'on est rempli d'opposition spirituelle. Donc si on n'est pas axé sur la vision et sur les moyens de cette vision, eh bien, on n'y arrivera pas.